Bonjour à tous. Donc, on a décidé de vous faire une présentation sur les tables d'amphithéâtre comme support de transmission. Donc, d'abord, je vais commencer par une petite présentation de la transmission en elle-même rapidement. Notre analyse se base sur la notion de transmission culturelle qu'on a choisi de définir avec une analyse de Alexandra Filon en 2009 qui différencie donc cette transmission culturelle de la transmission matérielle. Donc pour ça, elle donne principalement quatre critères. Donc le premier, qu'il n'y a pas de perte matérielle pour celui qui transmet. Le second, qu'il peut y avoir une transformation entre ce qu'on a envoyé lors de la transmission et ce qui est reçu au final, ce qui est gardé. En troisième, la transmission, elle est décrite comme un processus, cette fois-ci, lorsqu'elle est culturelle. Et donc ce n'est pas une action unique de « je lègue mon objet », mais c'est un processus qui est continu. Et enfin, elle peut être involontaire, puisque je ne suis pas nécessairement conscient des choses que je transmets quand je parle. Voilà. Donc, cette transmission, elle se base donc sur un mode de transmission orale ou écrit. Donc, nous, ça va être à ce niveau-là qu'on se situe. On a décidé de travailler principalement donc, sur un mode de transmission écrit et plus précisément sur un support en particulier, donc celui des dessins, des écritures sur les tables des amphithéâtres, particulièrement l'amphi Fresnel. Voilà. Pour ceux qui le connaissent, il y en a pas mal dessus. Donc, pourquoi étudier ce sujet? Parce que je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Donc, d'abord, la question nous a pas semblé avoir été soulevée à ce jour, peut-être à tort. Et une des raisons qui peut pousser à ça, selon moi, ça peut être que souvent on minimise la chose en pensant que ça peut être provoqué par une sorte d'ennui chez les élèves. Cependant, comme on a vu juste avant, la transmission elle peut être involontaire. Donc en fait, l'ennui n'est pas une excuse pour ne pas travailler sur ce sujet en soi, puisque les intentions sont intéressantes, mais elles ne sont pas nécessaires pour que la transmission soit là. Et surtout, on parle souvent d'ennui comme une raison qui justifierait l'inintérêt du sujet, alors qu'au final, ce qui nous pousse à écrire, ce qui nous pousse à dessiner sur les tables, c'est l'ennui. Mais ce qu'on va choisir d'en faire, ce qu'on choisit de représenter précisément, à ce moment-là, c'est un choix personnel. Donc, au final, il y a quand même une intention des auteurs. Donc, a priori, quels participants dans cette transmission? Donc, en théorie, on peut penser des étudiants vers des étudiants, donc une transmission qui serait plutôt latérale, mais elle n'est pas exclusivement latérale. Bon, déjà, les tables commencent à avoir un certain âge, hein, donc il y a quand même plusieurs générations qui ont pu se succéder. Ensuite, il faut penser qu'elles sont accessibles à tous et à toutes. Et donc, on peut avoir des enseignants qui peuvent voir ce qui est écrit dessus. On peut avoir du personnel d'entretien. Donc, en fait, c'est une transmission vers des personnes de tout âge, réellement. Pour ce qui est du matériel en lui-même, on peut penser que comme il s'agit quand même de quelque chose qui n'est pas très très légal, une dégradation de matériel, il y a un besoin de se cacher, d'agir vite, discrètement, ce qui peut expliquer certaines des analyses qu'on va faire ensuite. Donc la question est donc de savoir quel genre de transmission ce cadre spécifique peut-il engendrer. Donc le travail bien sûr ne se veut pas exhaustif, on n'a pas pu, faute de temps, analyser tous les dessins de toutes les tables, mais c'est un prémisse de ce qui pourrait être fait. Donc voilà, donc, notre première analyse se fera donc sur ACAB, que peut-être, j'imagine, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc c'est un acronyme qui vient de l'anglais, créé par la siglaison de l'expression « All cops are bastards ». Et donc, c'est un slogan anti-police qui aura été créé durant la grève des mineurs en Grande-Bretagne durant les années 84-85. Tout d'abord, ACAB, là-dessus, constitue en lui-même une preuve de la transmission anglo-française qu'on retrouve sur nos tables, puisque l'objet vient à la base d'une transmission entre anglais et français et qu'on retrouve au final sur des tables en France. On peut aussi voir que l'objet a été modifié lors de cette transmission, puisque rien qu'au niveau prononciation, on passe de ACAB à ACAB, donc la version francisée, mais ce qui montre quand même une appropriation de l'objet et donc en quelque sorte une réussite aussi de cette transmission. Jacqueline Percebois, en 2020, nous parle de la fonction dénominative lapidaire, et donc il s'agit de nommer un concept ou groupe de mots de façon concise, ce qui permet une économie rédactionnelle. Et donc déjà, là, on retrouve l'idée d'agir vite, en fait. Donc ACAB, c'est un slogan qui permet d'écrire rapidement ce qu'on veut dire. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve sur nos tables aussi. Et en plus, ça peut également être euphémique, puisque contrairement à l'expression écrite totalement, le mot dysphémique, à tendance dysphémique, bastards, il n'est pas évident quand on le voit, surtout en français, il a déjà subi deux transformations, un passage de l'expression complète au sigle, puis un passage du français, de l'anglais vers le français. Donc en ça, on a déjà une expression qui est euphémique. Et donc, pour faire une légère comparaison avec ce qu'on retrouve sur ces tables, puisqu'on a ici une expression qui est atténuée, qui est plus euphémique, parce qu'on passe déjà par une autre langue qui a moins d'impact, on peut penser que ce genre de message, par exemple « grève générale pour que crève le capital », aura plus d'impact que ACAB en lui-même, même s'il est aujourd'hui bien connu.
Passons donc à notre seconde analyse, donc « nique ta mère », donc un jeu de mots basé sur l'insulte française « nique ta mère », qui est une insulte en vogue depuis les années 2000, et le nom anglais « hair », désignant donc les cheveux. Donc ce faisant, la prononciation reste identique et on tient une blague qui semble faire référence donc, aux nombreux salons de coiffure avec, pour enseigne des jeux de mots avec « hair » ou « tiff ». Ces jeux de mots permettent bien souvent donc, de captiver la personne qui découvre le nom de l'enseigne, puisque ce dernier sort de l'ordinaire. Il s'agit en effet d'un modèle très productif, et nous pouvons trouver d'autres salons de coiffure avec des noms similaires, comme Baudelaire à Nantes, Prendre l'air à Utenheim ou Ainsi soit-il à Albi. De plus, Nick, dans cette occurrence, a une écriture différente. Donc à la fois, on a un passage à la langue parlée, et à la fois, c'est aussi une stylisation différente qui permet d'agir comme un euphémisme de la forme dysphémique, pardon, nick. Et l'écriture donc, semble donc moins choquante, puisqu'elle n'est pas associée au dysphémisme. Donc, on a une transmission plus évidente de l'humour, et avec le côté insultant encore plus rabaissé. Donc, après ces quelques analyses, nous pouvons penser qu'il y a bien une transmission culturelle avec l'intention de faire rire le receveur en écrivant ce jeu de mots. Donc il semble bien y avoir une intention de transmettre un objet culturel comme une blague et non pas une simple phrase écrite par ennui. Nous pouvons aussi penser que bien que l'occurrence soit basée sur une insulte, comme nous l'avons dit, celle-ci en perd totalement la valeur grâce au jeu de mots. Donc ici le receveur type, donc un étudiant dans le cadre de l'université, peut comprendre parfaitement cette occurrence et en déduire une intention humoristique et non pas injurieuse, et en se basant sur ses propres connaissances culturelles. Cependant, on peut se demander si l'intention comique serait transmise à un autre receveur, donc appartenant à un autre groupe culturel, par exemple, et n'ayant pas dans ses connaissances personnelles ce modèle de jeu de mots pour les enseignes de salon de coiffure. Il devrait alors réaliser un effort supplémentaire pour interpréter cette occurrence, ou bien la transmission ne serait que partielle. Et donc à cet égard, nous pouvons en déduire que le jeu de mots dépend de bien des facteurs afin que la transmission soit complète. C'est ce que précise Esme Winterfrommel, professeure à l'université de Würzburg, et Anne Galatziaka, professeure à l'université de Tübingen en 2015, dans leur chapitre intitulé « Jeu de mots, enjeux et interfaces dans l'interaction locuteur-auditeur, réflexion introductive » qui est tirée de l'ouvrage « Enjeux du jeu de mots ». Elle précise donc, je cite, « Les jeux de mots peuvent avoir une fonction sociale dans la mesure où ils peuvent opérer une séparation entre différents groupes d'auditeurs, par exemple entre des auditeurs qui apprécient un certain usage ludique du langage et d'autres qui ne le font pas, ou à un niveau encore plus fondamental, entre les auditeurs qui comprennent, c'est-à-dire qui arrivent à décoder avec succès le jeu de mots, et ceux qui échouent. »
Attention. On va désormais parler de cette occurrence, donc voilà, joliment intitulée « Swagance de Poulas ». Swag, à l'origine, on parle d'un anglicisme ici, qui est associé à une population plutôt jeune. Par le Cambridge Dictionary, par exemple, il est considéré comme, comme slang. D'après Google Ngram Viewer, on voit que son utilisation avoisine les 0% en français avant les années 2010 et qu'il y a une explosion à partir des années 2011 de l'utilisation du mot, donc au moment où il gagne en, en popularité. Premièrement, swag en lui-même, qui fait partie de cette expression, constitue donc encore une fois une preuve de la transmission anglo-française. Voilà. Maintenant, pour parler de l'expression en elle-même, ce qu'on peut déduire quand on connaît un peu l'expression d'origine, swag de poule, qui viendrait d'un vidéaste français, qui associerait donc le swag, le style, la classe, à celui d'une poule, le but étant de ridiculiser, donc c'est un but humoristique. Le tag en lui-même, il n'y a pas de possibilité de dater clairement, mais contrairement à beaucoup d'autres, on voit qu'il est assez récent, il n'est pas effacé, potentiellement des dernières années et peut-être pas au moment où la vidéo est sortie. Ça peut être une référence culturelle ici pour un milieu jeune avec peut-être un rappel de la nostalgie, et ça peut être également une manière, puisque l'expression est modifiée, de la remettre au goût du jour. On voit qu'on a la formation du nouveau mot, donc swagance à partir de swag plus anse, et poulasse à partir de poule plus as. Swagance en soi, anse en lui-même, on peut penser que c'est souvent utilisé pour créer des noms, avec par exemple Constance, Valence. Ici, on a une forme de redondance en soi, ça peut être... ça peut être pour vouloir réactualiser peut-être la valeur, la valeur nominale d'une lexie qui serait tombée dans l'oubli, ou peut-être tourner au ridicule un mot désuet. Et poulasse, ici, on a un peu le même procédé, mais avec un suffixe qui, ici, a une connotation généralement péjorative, sale, salace... ce genre de connotation qui n'est pas très positive, justement. Ici, on a à la fois ça, mais on peut avoir aussi un jeu de mots, un jeu de sonorité avec l'allitération en S entre swagance et poulasse, qui fait que l'expression semble plus naturelle. Ici, ça permet premièrement peut-être de garder une trace du passé, un historique en quelque sorte. On a une forme de transmission à la fois culturelle et linguistique. Une expression qui date, du passé, donc d'un vidéaste qui est aujourd'hui est passé de mode. Et cette transmission culturelle, qui vient de vidéos YouTube, elle peut être comparée avec ce genre de dessin qu'on retrouve un peu partout. Ici, on a une sorte de Yoda légèrement modifié, maquillé. Ça peut être comparé à tout ce genre de dessin qu'on voit et qui peut essayer de faire une sorte d'appartenance générationnelle. Je vais passer rapidement là-dessus. Ici, on a un numéro de téléphone indiqué là que j'ai effacé légèrement pour des raisons de confidentialité. Ici, on peut voir qu'on a une forme de mise en avant personnelle, donc une transmission qui serait de l'ordre plus social. Ça, c'est une mise en avant de soi, donc plutôt améliorative. Ici, l'équivalent péjoratif, et à ce moment-là, la mise en avant n'est pas personnelle, c'est une mise en avant d'autrui. Ici, on peut voir Paul égale gros con. Ce que ça nous indique, premièrement, il y a le lien sémantique formé par le égal, qui est un lien mathématique, logique, ce qui donne peut-être plus de force à l'argument, puisque les deux sont reliés par un signe mathématique, pas par une simple phrase qui serait subjective, qui nous donnerait un peu le point de vue du locuteur, de l'énonciateur. Ici, la prise en charge, elle est par la logique mathématique, ce qui permet de donner plus de force à l'argument. On a somme toute un message qui est très accusateur, qui ne laisse que très peu de place à l'énonciateur en lui-même, puisqu'il y a un signe mathématique, et donc ça donne une force à l'argument, encore une fois.
— Donc, par manque de temps, on ne va pas pouvoir vraiment réaliser l'analyse de notre dernière occurrence. Donc, je vais devoir conclure. Nous pouvons donc dire que par le biais de l'analyse de nos occurrences, la transmission apparaît bien comme multiple et nous pouvons penser que les tables apparaissent donc comme un moyen de transmission, mais également comme une preuve de transmission. Et en ce sens, nous pouvons donc parler de transmission au pluriel. Que ce soit idéologique, émotionnel, d'une langue vers une autre ou encore culturelle, la transmission peut se faire donc de bien des manières. De plus, comme nous l'avons dit, même si la transmission est involontaire de la part du transmetteur, l'acte d'écrire ou de dessiner un objet pouvant être conceptualisé par autrui rend l'analyse de ces occurrences donc tout à fait possible et bien que surprenant. Il serait donc tout à fait possible de pousser l'analyse un cran plus loin en comparant par exemple avec les occurrences entre différents amphithéâtres appartenant à différentes filières ou bien avec des occurrences d'amphithéâtres plus anciens comme par exemple Vissol, afin de témoigner d'un potentiel écart générationnel entre les occurrences que nous pourrions y trouver. Merci beaucoup.
Merci à vous deux pour cette présentation. Y a-t-il des questions ?
Je ne sais pas si elles nous ont dit beaucoup, peut-être bien. Alors, première question, comment ça vous est venu, cette idée ?
Comment ça nous est venu ? On a fait une réunion pour la journée d'études dans l'amphithéâtre Fresnel. Et en discutant, on a regardé un petit peu les... Enfin, on réfléchissait bien sûr au sujet de transmission. Et en regardant dans les tables, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire, énormément de choses différentes. Déjà, en se rendant compte que plus on était devant et moins il y avait d'occurrences. Plus on allait derrière, plus c'était des occurrences un peu vulgaires. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de possibilités et plein de choses à dire sur le sujet.
D'accord. Et deuxième question, ça vous a combien de temps en fait, pour faire le tour de l'amphi, pour trouver vos occurrences ?
Ben, en fait, c'était tellement rempli. Je dois avouer qu'on n'a pas eu besoin de tant de temps que ça. Déjà, on a passé bien 20 minutes sur une fresque de canard sur l'étape du fond. Donc ça nous a pris un peu de temps, certes. Mais après, en vrai, on comptait y repasser peut-être pour prendre plus d'occurrences. En fait, on s'est rendu compte que sur la quarantaine, cinquantaine de photos qu'on avait, c'était tellement rempli, il y avait tellement de choses en fait que là, c'est pas exhaustif du tout. On a vu beaucoup plus de choses que ça, mais il fallait qu'on fasse une sélection. Déjà, là, on a dépassé. Mais voilà, donc non, ça n'a pas pris très longtemps en fait, parce qu'en prenant 2-3 photos, on a déjà énormément de choses.
On se demande si ce n'est pas vous qui avez écrit soit le livre de pour pouvoir faire les commentaires ensuite.
Je ne dirai rien.
D'autres questions ? Je me demandais parce qu'en fait, on voit beaucoup aussi de réponses aux mots qui ont pu être écrits.
On a un peu, ça peut paraître étonnant, mais on a aussi un petit peu évité les occurrences qui étaient un petit peu trop vulgaires. On en a pris quelques-unes, mais voilà, c'est l'exemple vraiment d'échange qu'on avait, c'était du coup cette occurrence, cette analyse qu'on n'a pas pu faire par manque de temps. Mais on voit bien que les étudiants discutent entre eux, partagent même donc leur compte Instagram, se demandent entre eux s'ils vont bien ou pas. Et donc, voilà.
Après, par rapport à tout ce que tu disais sur les toilettes, tout ça, en vrai, on y avait réfléchi aussi. Mais disons que ce qu'on y trouve souvent, c'est très très sexuel, c'est très limite. Et en parler ici aurait peut-être été un peu gênant pour tout le monde. Après, il y a des choses, par exemple, le hijab était barré en soi. Donc là, est-ce qu'on a une forme de rejet de cette transmission ? Je ne sais pas, c'est possible. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Après, ce qui est compliqué à savoir, c'est qu'on n'a pas les auteurs avec nous. On n'a que des gestes, ça peut être machinal, on ne sait pas vraiment. Donc on a analysé sur ce qui était plutôt linguistique en soi, sur ce qui était de la langue écrite claire, et on a essayé de lier ça avec quelques dessins qu'on a vus, mais c'est un peu plus compliqué quand il s'agit de barrer des choses.
Merci. Merci pour votre présentation. C'était par rapport à un cycle que j'ai vu justement en Amphi Fresnel il y a un petit moment déjà. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu ou que vous avez pu voir, chose qui tombait. C'était une insulte qui était écrite en coréen avec l'alphabet hangeul. Et en fait, c'était une variation d'une insulte très connue, mais du coup, il y a une notion de. C'est un code un peu secret, tout le monde ne sait pas lire cet alphabet en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu retrouver, des codes un petit peu partagés que par une petite partie de la communauté, des messages un peu secrets,
Je réfléchis.
Bah, en soi, quand on réfléchit à déjà ce qu'on a dans le, sur notre diaporama, en soi, rien que ACAB en lui-même, c'est pas connu par tout le monde en fait de base. C'est quelque chose qui aujourd'hui c'est un peu démocratisé, que beaucoup de gens connaissent, mais à la base c'est pas forcément connu. Donc oui, il y a beaucoup de choses niches aussi. Il y a des choses qui vont être bien plus personnelles, qui vont parler à un plus petit groupe. Est-ce que c'est aussi un moyen, justement, comme on parlait d'appartenance générationnelle, de parler d'appartenance à un certain groupe? C'est possible. Dans tous les cas, sur tout ce qui va être, voilà, moi le coréen par exemple, je ne maîtrise pas, donc personnellement peut-être que je l'ai vu, je ne suis pas allé dessus puisque je ne maîtrise pas du tout, je n'aurais pas su dire ce que c'était, je n'aurais pas su en parler, mais oui, ce n'est pas étonnant. Il y a beaucoup de choses qui, même le Paul égale gros con qu'on a vu là, en soi, qui Paul est? J'ai caché, en dessous il y avait juste la filière, je l'ai caché par respect, on va dire, pour anonymiser un peu plus la chose, mais bon, en soi, des Pauls dans telle filière, il y en a plein, donc on ne sait pas, et sur toutes les années... Donc oui, il y a des choses qui sont beaucoup plus cachées et ce n'est pas nécessairement fait pour que tout le monde les comprenne.
Ce n'est pas un phénomène récent, en tout cas. Joyce, dans son roman autobiographique, Le portrait d'un jeune homme en artiste, qui date de 1905 ou quelque chose comme ça, mentionne des graffitis sur les tables de son lycée quand il y revient. Oui. Je pense que toutes les générations ont connu ça.
Clairement, oui.
Et nous, on avait plus de place dans les amphis. C'était nos amphis déjà, donc on avait plein de place. C'est depuis, maintenant il y en a moins.
On pourrait retrouver ce que tu avais écrit à l'époque.
Oui.
Et une question, c'est est-ce que vous avez regardé, parce qu'il y a des travaux qui sont faits sur les graffitis sur les tables, ça existe. Notamment à la mairie, je travaille à la mairie, on a des graffitis. Et à l'époque, c'était, il y avait vraiment nom, prénom, filière. Est-ce que vous avez retrouvé ça aussi ou est-ce que c'est plus, beaucoup plus anonyme?
On a retrouvé beaucoup de noms, prénoms, comme on avait avant le numéro de téléphone. Je pense que c'est pas propre à l'amphi Fresnel, mais de manière générale, je pense qu'on peut tous dire qu'on a déjà vu sur une table... Des insultes, je crois à l'amphi Fresnel, vraiment tout en haut à droite, il y avait un prénom d'une fille qui se faisait insulter de tous les noms. C'est souvent des choses qui sont aussi visées et aussi très vulgaires, quoi. Donc, c'est pas si anonyme que ça, je trouve. On a pris principalement des choses qui seraient anonymes, sauf, on a quand même des comptes Instagram et on avait un numéro de téléphone et Paul, du coup. De manière générale, y a quand même beaucoup de choses qui sont personnelles.
Ce qu'on retrouve souvent, c'est que quand c'est un peu trop violent ou quand c'est engagé, il n'y a souvent pas de nom, en tout cas pas de nom de l'auteur. Par exemple, pour Paul, on a le nom de Paul, mais on n'a pas la personne qui l'a écrite, absolument pas. Donc pour tout ce qui pourrait mettre, entre guillemets, en danger l'auteur, et c'est ça aussi la chance de pouvoir écrire sur ces tables-là, c'est que si on ne se fait pas prendre pendant qu'on le fait, on ne se fait pas retrouver ensuite, en fait. Donc très souvent, pour tout ce qui va être un peu trop violent, il n'y a pas. Après, comme je disais, voilà, pour le numéro de téléphone, je n'ai pas pu étaler dessus, mais il y a beaucoup de mises en avant personnelles aussi. Donc pour des beaux dessins ou des gens qui vont juste mettre leur compte Instagram, ça en retrouve beaucoup. C'est très peu anonyme, oui.
D'autres commentaires, questions ? Merci à vous deux.